BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h passé de 31 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverses. Trois ans après avoir pris la tête de la CFDT et de la CGT, Marie-Lise Léon et Sophie Binet remettent toutes les deux leur mandat en jeu ce mois-ci. Les deux centrales tiennent leur congrès, la CGT en ce moment même. Alors, peu de suspense sur leur reconduction, mais une question ce matin. Ont-elles amélioré l'image et l'influence des syndicats en France? On va vous donner tous les résultats exclusifs de notre sondage mensuel Odoxa AJP Challenge BFM Business et on va voir que les Français ne sont pas tendres avec ceux qui sont pourtant censés les représenter dans le monde du travail. On va ensuite parler budget avec l'avis de la Commission européenne sur la trajectoire française, tout cela dans le cadre du semestre européen. Une France globalement en bonne voie, nous dit Bruxelles, alors que nous sommes pourtant quasiment bonnet d'âne des déficits en Europe. Alors, trop conciliante, la Commission, ce sera le thème du deuxième débat ce matin avec mes experts. On va aussi revenir largement sur le plan présenté hier par Bruxelles, encore une fois, après l'industrie. La Commission a présenté un grand plan pour la souveraineté numérique et technologique en Europe, alors que plus de 80% des produits, services et infrastructures numériques de l'Union européenne dépendent de fournisseurs non européens aujourd'hui. Mais ce plan est-il à la hauteur des enjeux? Et puis surtout, est-il crédible? Ce sera le troisième sujet du jour. Et puis si on a le temps, on va regarder la nouvelle recette de Thomas Piketty pour instaurer une prospérité mondiale d'ici, pas tout de suite, 2100. Vous verrez, surprise, ça passe par beaucoup de taxes. On va voir si tout cela fonctionne au final. Voilà pour le programme du jour. Il est 9h passé de 33 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business pour les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Gaëlle Mac. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Directrice déléguée de la rédaction de Challenge. À vos côtés, votre comparse Gaël Slimane. Bonjour Gaël.
Bonjour Raphaël.
Président de l'OXA et Ryan Nézard. Bonjour Ryan. Bonjour. Professeur à Sciences Po. Gaël, je le disais, c'est l'heure, tout comme tous les premiers jeudis du mois, du sondage mensuel au DOXA 1. Vous allez nous dire comment va le moral des Français. Avec une petite surprise, d'ailleurs, pour commencer.
Pas si pire que ça.
Ouais, finalement, il faut nourrir l'optimisme. Et puis surtout, ce grand sondage sur les Français et les syndicats, alors que, je vous le disais, la CGT tient en ce moment même son congrès, et la CFDT, elle, ça arrivera dans quelques jours.
Pour le moral, pour une fois, le sondeur n'est pas porteur de trop mauvaises nouvelles. Je crois que il y a des, comment dit-on, en bourse, prise de bénéfices.
Oui.
Et donc, on est tombé très, très, très bas avec cette guerre au Moyen-Orient. Et à un moment donné,
on finit
quand même par se lasser des tweets quotidiens de Donald Trump,
ouais,
et des annonces les plus improbables. Donc, le moral s'améliore. On a un gain ce mois-ci par rapport au mois dernier de 5 points. J'en chausse mes lunettes tellement ça me paraît spectaculaire.
C'est quand même hyper surprenant. Pardon Gaël, qu'est-ce qui explique? Tous les indicateurs macroéconomiques sont... dégoûtants. Voilà, dans le rouge.
Juste rappeler les choses, 79% des Français ne sont pas confiants en l'avenir de la situation économique de leur pays. Ça, c'est la photographie.
Oui.
On ne demande pas aux gens de dire si ça va mieux, mais c'est un indice pour eux-mêmes, c'est un indice sur la confiance en la situation économique de leur pays qui est à 79% négatif. Les moins de 30% qui restent et qui sont à peine 20% qui restent et qui sont positifs, ça représente pas grand chose. Mais c'est moins pire que le mois dernier,
oui,
parce que on était sur un point bas. Et le mois d'avant aussi, on était sur des points très bas où on venait d'avoir des rebonds sur le conflit au Moyen-Orient, sur les hausses du prix du pétrole. Et donc, à un moment donné, la tendance, elle n'est pas bonne, quoi qu'il arrive.
Hein. Ouais.
Ça fait, je le dis souvent à propos de ce moral économique, depuis presque 2 ans maintenant, ça fait effectivement 2 ans, depuis la dissolution, que nos concitoyens ont le sentiment que leur pays va dans le mur et qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion parce qu'on ne peut pas gouverner le pays. Donc, ça, c'est pour le moral. Les seuls moments où il s'améliore, d'ailleurs, alors que les Français nous disent ne pas croire en la politique, vous regarderez la courbe sur notre site Odoxa ou sur celui de BFM ou de Challenge ou d'AJP d'ailleurs, les seuls moments où on voit l'indice de morale remonter nettement, c'est au moment d'élection présidentielle.
Oui.
Et donc, on verra dans quelques mois des Français nous dire « je crois pas à la politique, je crois pas dans les politiques ». Et en même temps, leur indice de confiance en l'avenir économique s'améliorer. Nous sommes le peuple le plus politique au monde.
Oui.
Voilà pour l'économie.
Et comme quoi le mythe de l'homme providentiel fonctionne toujours et encore de manière assez étonnante, je dois dire.
Ma conviction, c'est que la raison pour c'est pas lié au génie des peuples. C'est pas une question de rapport des Français à la politique. C'est pas tant cela. C'est plutôt notre système politique qui produit fondamentalement ça. Nous sommes quasiment le seul pays au monde en démocratie à confier les rênes de tous les pouvoirs à un seul homme au moment de la présidentielle. Même aux États-Unis, il y a davantage de contre-pouvoirs, Gaël. Même aux États-Unis. Mais là, c'est Donald Trump et on verra avec les midterms. Mais en France, on a vraiment cette singularité. Et donc, forcément, on attend beaucoup trop de celui qu'on a élu. Et on le déteste immédiatement. Vous regardez les popularités des présidents, 70% à l'arrivée.
Et oui.
Et
il faut qu'il parte pour que ça remonte dans la cote de popularité. C'est l'ONU.
Voulez-vous qu'on parle des syndicats ?
On va parler des syndicats. Juste un point. Est-ce que traditionnellement, votre sondage sur le moral des Français remonte au mois de mai ? Est-ce que c'est pas l'effet
pont ? Ah non, un effet de saisonnalité.
Les soleils.
Là déjà,
l'effet jour férié.
On est en juin et mais tel mois dernier, peut-être les jours fériés.
Le repos,
allez savoir.
Le repos des jours fériés qui voulait supprimer François Bayrou.
Alors ça, c'était pas très populaire.
Allez, on passe aux syndicats.
Alors
effectivement.
Les syndicats, on est, vous l'avez dit dans votre lancement, Raphaël, on est sur une très large majorité de mauvaises opinions à l'égard des syndicats en général. On a 62% de mauvaises opinions contre 38% de bonnes opinions. Et quand on regarde comment est cette popularité des syndicats depuis 10 ans, globalement, on est à peu près toujours dans cet étiage-là. Donc, elles n'ont pas, pour revenir à...
De tiers un tiers, quoi, pour faire simple.
Ouais, en gros, c'est ça. Elles n'ont pas amélioré l'image des syndicats en France, les deux dirigeantes des deux principales centrales syndicales de notre pays. Elles n'ont pas non plus profité de l'effet d'enthousiasme qu'il y avait eu dans le combat commun contre la réforme des retraites. Mais elles n'ont pas aggravé la situation non plus. Et surtout, les syndicats ont une image totalement typée. On a un prof de Sciences Po en face de moi. Il y a à peu près aucun autre sujet qui suscite, même les sujets immigration, insécurité, autant de stéréotypes politiques que sur les syndicats. Pour faire simple, les trois quarts des sympathisants de tous les partis de gauche, quand on les prend en moyenne, disent « nous avons une bonne opinion des syndicats ». Et à l'inverse, les sympathisants de tous les autres partis politiques et du principal parti politique, c'est-à-dire les gens sans proximité partisane, tous ont une mauvaise image des syndicats. Donc, à part
Trop politisés, les syndicats, c'est ce que vous nous dites, finalement, si vous voulez élargir leur base.
Moi, je ne dis rien. Je décris ces chiffres qui montrent que si on aime les syndicats, c'est qu'on est de gauche.
Ryan Nézard, vous confirmez ?
Alors, moi, j'ai trouvé intéressant dans le sondage Odoxa un point concernant l'image de la CFDT en particulier.
Ah, parce qu'en fait, on y viendra après.
Bon, ben, je vous laisse peut-être le faire. Mais peut-être pour introduire le débat. Parce que je pense que dire les syndicats de manière générale, c'est...
C'est trop large.
C'est avoir une approche peut-être un peu trop globalisante. L'image de la CFDT est intéressante. Elle est d'autant plus populaire, en l'occurrence Marie-Lise Léon, chez les sympathisants du Parti Socialiste, des écologistes et de Renaissance.
Une voix qui porte à gauche.
Je trouve que c'est intéressant, mais...
Centre-gauche.
Voilà. On va dire...
Moins radical, effectivement, que la CGT.
Parti progressiste de l'opinion. Et donc, on voit qu'il y a aussi un jeu de positionnement des syndicats les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur l'image négative, hélas, je crains qu'elle ne soit partagée par les partis politiques et, pardon, cher Raphaël, aussi par les médias. Donc, l'image négative que peuvent avoir les Français à l'égard des syndicats, elle n'est pas forcément, d'ailleurs, fondée, parce que, en réalité, beaucoup de syndicats sont dans une posture constructive, de compromis, derrière
les postures nationales qui ne sont pas forcément celles que l'on retrouve au sein des entreprises.
Moi, j'aimerais vous raconter deux choses là-dessus, sans être trop long. La première, c'est sur les retraites. Vous en avez parlé. On a beaucoup, évidemment, commenté l'opposition. À l'époque, c'était... Laurent Berger, de la CFDT, main dans la main avec la CGT, à la réforme d'Elisabeth Borne. Ce qu'on a peu raconté, c'est que sur d'autres sujets passés un peu sous le radar, ces syndicats ont aussi fait des compromis sur les retraites. Exemple sur l'Agirc-Arrco.
Oui.
L'an dernier, la CFDT a proposé de sous-indexer les retraites à Agirc-Arrco.
Oui, mais sur les complémentaires, 2025. Les partenaires sociaux qui gèrent les complémentaires sont beaucoup plus sérieux que...
Mais parce qu'ils ont à la fois
l'état gestionnaire de
la responsabilité
général.
Et les leviers.
Eh oui.
Deuxième exemple, Les RAF, alors les RAF, pardon, c'est un sigle un petit peu barbare. Mmh. C'est la retraite additionnelle de la fonction publique. Pour le dire en français,
le seul fonds d'investissement, le seul fonds de
capitalisation pour les agents publics.
Existe, voilà.
Exactement. Beaucoup d'ailleurs ignorent son existence. Ça, c'est géré, y compris par les partenaires sociaux. Vous avez un membre de la CFDT qui siège au conseil d'administration et qui décide de placer, je crois que c'est à peu près 50 milliards d'actifs qui sont gérés, de placer ces actifs pour produire du rendement et ensuite verser les prestations aux ayants droit. Et donc, vous voyez qu'en fait, sous les radars, derrière ces portes closes, vous avez des syndicats qui peuvent avoir des postures constructives, de compromis, et qui ne correspondent pas à l'image générale qu'en effet votre enquête montre auprès des Français.
Ça, on l'a vu souvent, nous, en tant que journaliste, Gaël Mac, effectivement, ces accords qui sont signés, notamment par la CGT, hein, qui ne signe traditionnellement aucun accord interprofessionnel, mais par contre, qui négocie beaucoup au sein de l'entreprise. Il y a une forme de dichotomie, comme ça, entre la posture politique au niveau national et puis ce qui se négocie dans l'entreprise.
Oui, oui. Alors, c'est vrai que je pense que, juste un tout petit peu pour refaire un petit point sur ces chiffres, c'est vrai que ce qui pouvait être un tout petit peu décevant, c'est que finalement, les deux syndicats ont renouvelé leur personnel politique. Oui. Ils ont pris chacun une femme, ils ont pris des femmes plus jeunes. C'est vrai que Sophie Binet, elle a à la fois un discours qui reste offensif à la manière de la CGT, mais elle vient quand même de la CGT cadre.
Oui.
Et voilà, et elle portait quand même un discours.
C'est une forme de disruption quand elle est arrivée, d'ailleurs.
Exactement. Hein, pour la je veux dire,
CGT,
voilà.
Qui est plutôt dans l'industrie,
et,
normalement.
Et d'ailleurs, les deux aussi ont quand même adopté une posture plus de coopération que leurs prédécesseurs. Bon, elles ont chacune sur leur.
Chacun à sa manière.
Chacune,
oui.
Chacun dans son couloir de nage, mais bon. Et à la fin, c'est vrai que. Et en plus, le syndicalisme n'avait pas eu de victoire, disons, de scalp avant cette réforme des retraites, quand même, qui était quand même qui était un acquis. Or, c'est vrai qu'elles n'en ont pas particulièrement tiré avantage. Enfin, je veux dire, ça ne se voit pas. Bon, je pense aussi qu'on est quand même dans une conjoncture assez morose. C'est vrai que la CGT fait des recensions sur le nombre de plans sociaux, sur la industrialisation, etc. qui, bon, en fait, paradoxalement, déprime et décourage un peu plutôt que porte à la lutte, finalement.
Moi, ce qui m'a surpris, Gaël Sliman, c'est un Français sur deux incapable de dire qui est quand même le secrétaire de l'un ou de l'autre. On les a tellement vus pendant la bataille des retraites, encore pendant le conclave.
Alors, ne me spoilez pas trop l'un et l'autre, parce que je n'ai pas encore livré les chiffres sur l'image de la CFDT et l'image de la CGT.
Je vous tends le micro.
Donc, sur la CFDT, on est à 57% de mauvaises opinions, 42% de bonnes. Et là, pour le coup, il y a une très forte baisse, moins 9 points par rapport à la dernière mesure que nous avions effectuée il y a 6 ans. Et sur la CGT, on est à 62% de mauvaises opinions et à 37% de bonnes. Et c'est moins 6 points par rapport à cette mesure d'il y a 6 ans.
Qu'est-ce qui explique
ça? Ça veut dire que on a l'image des syndicats au global, qui globalement bouge pas trop, est assez stable. Et les deux mastodontes, les deux principaux poids lourds syndicaux, eux voient leur image baisser depuis ces 6 dernières années. Alors, je n'ai pas un suivi quotidien ou régulier, c'est sur deux mesures. Une hypothèse que l'on peut formuler, c'est une déception, ce qu'évoquait Gaël Mac il y a un instant, sur un renouvellement qui a été fait, qu'on a vu, et après je reviendrai à leur non-notoriété parce que ça se discute, mais donc un renouvellement s'est fait et ça ne produit pas tant d'effets que cela. Deuxièmement, comment prendre ce qui s'est passé au moment de la réforme des retraites? Vous avez des syndicats qui sont en phase, tous les deux, avec, en gros, les trois quarts des Français, pour s'opposer à cette réforme. Vous avez des millions de personnes dans la rue, en cumulé, même pas en cumulé d'ailleurs, à chaque mouvement. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, rien, du point de vue de l'opinion. Ça n'a pas été efficace.
Eh oui.
Du coup, une hypothèse, c'est cette question de l'inefficacité. Et après, je vais rejoindre ce que disait Ryan il y a un instant sur ce qu'il avait soulevé sur l'image de la CFDT. Il y a effectivement, et moi aussi, c'est ce que je relevais dans l'étude d'intéressant, une fois qu'on a dit les syndicats pris en global sont plutôt soutenus par la gauche et rejetés par les autres partis ou les gens sans proximité partisane, c'est vrai qu'il y a une différence de structure d'image de la CFDT et de la CGT. Pour la CGT, une image positive auprès des partis les plus à gauche, avec un carton auprès des sympathisants insoumis. Et pour la CFDT, une image qui est surtout bonne au Parti Socialiste et qui n'est pas mal non plus, finalement, à Renaissance. Donc, on voit, et je rappelle d'ailleurs, on on se souvient peut-être pas bien, que la CFDT, s'ils étaient aussi en colère, Laurent Berger à l'époque, contre la réforme Borne, c'est qu'ils avaient topé avec Macron sur une autre réforme, oui. Qui était la réforme à points, que Édouard Philippe devait porter, et avec laquelle d'ailleurs les Français étaient plutôt d'accord. Donc il y a vraiment eu, de ce point de vue-là, sur la CFDT, un sentiment de trahison. Après, j'en reviens aux popularités des deux héroïnes du moment, donc les deux leaders des deux mouvements
qui remettent leur mandat en jeu.
Marie-Lise Léon pour la CFDT et Sophie Binet pour la CGT. Attention, c'est la question qu'on pose, c'est une question où on demande si on a une bonne opinion, une mauvaise opinion, oui. ou si on a, on ne connaît pas suffisamment.
Ou pas d'opinion du tout.
Non, oui. Ou si on ne connaît pas suffisamment la personne pour avoir une opinion à son sujet. Et je pense que c'est... Alors, vous avez raison de le rappeler, Raphaël, on a beaucoup de Français, 63% qui ne connaissent pas suffisamment Marie-Lise Léon pour émettre une opinion à son endroit. Et Sophie Binet, un Français sur deux, 51%. Dans le cas de Sophie Binet, qu'on a davantage vu, je pense, je pense que c'est pas que les gens n'identifient pas tant que cela qui elle est, mais c'est que dit-elle ? Où est-elle ? Et je rejoins ce que disait Gaël il y a un instant, on entend quand même beaucoup de messages qui sont des messages qui sont surprenants pour la base cégétiste dans la bouche de Sophie Binet, parce qu'elle porte beaucoup, souvent, sur des aspects sociétaux, sur des aspects que certains pourraient qualifier de woke, ou qui peuvent être sur des sujets d'égalité des sexes, ou des sujets comme ceux-là, et moins sur les sujets d'industrie classique, de défense des catégories populaires par rapport au patronat. Et ça explique peut-être son manque de réussite dans l'opinion. Et là encore, on observe sur les deux personnalités, les deux leaders syndicales, la même dichotomie, très fort soutien pour ceux qui la connaissent, oui. de Sophie Binet chez les Insoumis. Et, à contrario, pour Marie-Lise Léon, on est plus soutenu au Parti Socialiste et au Centre-Gauche.
Oui, plus les sociodémocrates. Moi, ce que je retiens, c'est quand même, on a l'impression d'une forme de désenchantement vis-à-vis des acteurs syndicaux, de tous ceux qui font les politiques publiques, en réalité. C'est la même chose avec les politiques, oui. évidemment. Mais j'ai l'impression que les Français mettent un peu tout ça dans la même nasse en disant ils peuvent négocier tout ce qu'ils veulent, de toute façon.
Oui, c'est vrai qu'il y a une défiance à l'égard des politiques, à l'égard des journalistes.
Si on faisait des institutions,
des institutions,
des sondages sur les sondeurs. De tous les corps intermédiaires, en gros, voilà.
Il y a un sujet qu'on n'évoque pas, il y a une centrale qu'on n'évoque pas là, c'est Force ouvrière. Peut-être de son rapport avec l'extrême droite, pour le coup, qui est un véritable sujet aussi. La CGT et la CFDT sont deux centrales qui se sont exprimées clairement contre le Rassemblement National, refusent que leurs adhérents soient membres du Rassemblement National et en ont exclu certains oui. qui s'étaient présentés d'ailleurs aux législatives. Vous sondez les gens sur
On a pris les deux, on a fait les syndicats au global et puis les deux CFDT-CGT parce qu'ils avaient une actualité là. On n'a pas sondé sur FO, qui est moins connu aussi du grand public. Là, on est en train de parler. Vous voyez, quand on parle des deux leaders, des deux centrales syndicales, on a la moitié des Français ou plus qui ne les connaissent pas suffisamment pour avoir une opinion à leur égard. Je pense que côté FO, ce serait encore pire.
Vous avez beaucoup négocié avec les syndicats, Ryan, quand vous étiez membre de cabinet. Est-ce qu'ils influent réellement les réformes ? Comment se passent ces discussions ?
Alors oui, moi j'ai eu, par exemple, à l'Éducation nationale, plusieurs expériences dans lesquelles, notamment avec les négociateurs de la CFDT, c'était vraiment de très bons négociateurs qui connaissaient bien leur dossier, y compris les éléments techniques sur, par exemple, les grilles salariales des professeurs, sur tel ou tel élément, y compris pédagogique, à l'Éducation nationale. Et j'ai souvenir, c'était en 2023, l'automne 2023, qu'on avait fait, je crois que c'est 3-4 mois de round de négociation sur une réforme de la formation des professeurs. Et alors, il n'y avait pas que la CFDT, il y a sept organisations syndicales représentatives oui. à l'Éducation nationale, donc tout le monde était dans la pièce. Mais c'est vrai que c'était des négociateurs relativement constructifs, au sens où ils arrivaient avec des objectifs, des demandes, mais dès lors que vous faisiez un pas, ils faisaient aussi un pas. Et ça m'a vraiment marqué, parce que j'avais une image qu'on peut tous avoir en tant que citoyen d'organisation parfois un petit peu
attachée
à rigide. Pas forcément conservatrice, mais en tout cas
rigide.
Ouais, attachée à certains objectifs et pas dans une posture de compromis. C'était juste après la réforme des retraites, par ailleurs. Et en fait, leur intérêt, leur enjeu, c'est de ramener des victoires à la maison, si je peux dire. C'est de dire à leur base, et c'est assez légitime, aux personnes qu'elles représentent, de leur dire, écoutez, on a fait railler, on a négocié, le gouvernement n'est pas d'accord avec nous à 100% et chacun est dans son rôle, mais on a obtenu des choses utiles pour vous et utiles pour le pays. Donc voilà, c'est pas pour redorer le blason des partenaires sociaux, ils n'ont pas besoin de moi pour
non,
ça.
Non, mais c'est la logique mais de
cette expérience-là montre que parfois... quand on est constructif de part et d'autre, on peut y arriver.
Parce que Gaël, en Allemagne par exemple, on sait que les syndicats sont là d'abord et avant tout pour défendre l'intérêt de l'entreprise, la prospérité commune qui revient aussi aux salariés.
Oui, alors bon,
par des hausses de salaire, c'est pas tout à fait la même logique non plus.
Oui, hein. l'organisation allemande est différente dans le sens où souvent les syndicats sont membres des conseils d'administration. Enfin, il y a une sorte de co-gestion.
Et beaucoup plus puissant.
Et plus puissant,
du
mais
d'adhérents.
Eux aussi sont contestés. Hein, je veux dire, dernièrement, il y a eu quand même des contestations aussi des syndicats. Mais c'est vrai que en France, il y avait, enfin, et ça c'est pas du tout récent. Maintenant, il y a quand même une désyndicalisation, c'est-à-dire ils ont quand même un problème d'adhérents. D'ailleurs, la CGT le reconnaît. Ils recrutent et ils perdent des adhérents. Ils n'arrivent pas à garder une base vraiment importante. Ouais. Et en fait, il y a un décalage entre leur importance institutionnelle, parce qu'on a besoin de partenaires sociaux, donc ils sont bien présents dans l'ensemble des instances représentatives, et leur poids électoral, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire leur poids dans la population salariée qui, depuis très longtemps maintenant, est en déclin, ça c'est sûr.
Bon, pour terminer, Gaëlle, l'enjeu de Sophie Binet et Marie-Lise Léon pour les trois prochaines années. On sait qu'elles vont être reconduites, a priori, il y a assez peu de suspense sur ce point-là. Mais c'est donc peut-être davantage de lisibilité, de notoriété ?
Bah, y a un premier enjeu qu'elles ne peuvent pas maîtriser, c'est qui sera à l'Élysée l'an prochain. Et ça, c'est un sacré enjeu.
Oui.
Parce que selon qui sera le président de la République, ça changera totalement la stratégie nationale que pourront avoir ces syndicats. Si c'est Jordan Bardella, par exemple, vous avez évoqué le rapport très clair qu'entretiennent la CFDT et la CGT à l'égard du Rassemblement National, ça va être difficile de ne pas être dans une confrontation, peut-être stérile, mais c'est inéluctable. Si c'est un autre président... Alors, il faudra qu'elle puisse construire une relation, qu'évoquait Ryan, de négociation, de transaction. Le coche a été raté pour la CFDT, mais encore une fois, de ce que l'on sait, pas par sa faute, mais à cause d'Emmanuel Macron, au moment de cette réforme qui a été avortée, portée par Édouard Philippe sur la retraite à points. Parce que là aussi, la CFDT, qui longtemps a été traité par la CGT de syndicats vendus au patronat, pas assez à gauche, pas assez, ne défendant pas assez les travailleurs, la CFDT avait pris des risques en allant assez loin dans les discussions avec un Premier ministre dans le cadre d'une réforme des retraites qui n'est jamais très populaire ou qui ne fait jamais très plaisir.
Mais elle le fait toujours d'ailleurs. Marlise Léon, quand elle dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de tabou sur la capitalisation et qu'elle prône plutôt une retraite à la carte et pas forcément revenir aux 62 ans et donc prête à travailler plutôt sur la durée de cotisation que sur un retour concernant l'âge légal.
Mais ils le font toujours.
Je trouve que c'est je donne mon avis citoyen, mais je trouve que c'est plutôt courageux comme posture, a fortiori en étant à l'aveugle sur la prochaine présidence de la République.
En sachant qu'ils ont en tête, les syndicats, une chose que je rappelle ici, hein, il est faux de dire que les Français considèrent qu'il n'est pas utile de travailler davantage. On répète ça tout le temps sur les plateaux. Les gens n'ont pas compris qu'il fallait travailler plus avec le vieillissement. On l'entend comme si c'était une vérité. C'est faux. On l'a sondé à maintes reprises, les Français dans les enquêtes comprennent, savent que la durée de vie s'accroissant, eh bien, il faudra trouver les moyens de travailler davantage. Mais ils disent juste une chose, et qui se comprend. Il y a un deal en France, arrêtez de nous comparer aux autres pays européens, parce que dans les autres pays européens, c'est l'âge.
Oui.
En France, il y a une règle qui est la durée de cotisation. Donc, si on vieillit davantage, il faudra cotiser davantage. Et il y a une réforme qui existe, qui était la réforme Touraine, qui incluait déjà dans l'esprit, avec la CFDT, la progressivité. C'est-à-dire que si on vieillit, mécaniquement, la durée de cotisation augmente. Ce qui a rendu les gens fous au moment de la réforme des retraites,
c'est l'âge pivot.
C'est qu'on dise, non seulement il y aura une durée de cotisation, mais en plus il y aura un âge. Et je rappelle juste que là, quand on fait des qualis, les gens nous disent, mais quelle est cette blague ? Si on doit cotiser 43 ans, le fils de cadre... qui va commencer à bosser à 25 ans parce qu'il va faire des études supérieures.
Oui.
Bah, les 43 ans, ça l'amène à 68 ans. Et donc, on peut bien mettre une retraite à 64, 65 ou 67, comme le souhaite Édouard Philippe. Ça ne changera rien pour les gens les plus aisés. En revanche, l'ouvrier qui commencera à bosser à 20 ans, je ne prends même pas les âges très jeunes exprès, hein, et bah lui, la durée de cotisation, 43 ans, ça l'amène à 63. Si on lui dit tu vas bosser jusqu'à 64, ça lui fait un an de plus. Et ça, c'est un refus des politiques d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a des arguments, je ne vais pas y revenir, on en a parlé sur ce plateau maintes fois, mais il y a des arguments pour jouer sur l'âge. Mais il aurait fallu expliquer, et pas que sur la cotisation, mais il aurait fallu expliquer aux Français pourquoi on faisait ce qui pouvait leur sembler une injustice, pourquoi c'était utile pour le pays, comment on voulait la compenser. Ça
et
n'a pas
été fait.
Que
40% des Français n'étaient pas concernés par la réforme 2023 d'Elisabeth Borne, effectivement, puisqu'ils avaient commencé à travailler jeunes et qu'il y avait beaucoup de dérogations aussi. C'est vrai qu'il y a eu un véritable problème de pédagogie. Et cette réforme des retraites, évidemment, sera au cœur de la présidentielle, sera aussi l'un des principaux leviers pour rétablir les comptes publics déficitaires de la France. La Commission européenne a publié hier, dans le cadre de son semestre européen, des recommandations, son avis d'abord, sur l'état d'avancement de ce rétablissement, et puis des recommandations sur les voies et moyens de réduire ce déficit. On va en parler tout de suite après une courte pause publicitaire. Et à Bruxelles toujours, hier a été présenté un grand plan de souveraineté technologique pour réduire nos dépendances en produits, en services, en infrastructures numériques. On va voir ce qu'en pensent mes experts. Rendez-vous tout de suite dans une minute.
BFM Business et la Tribune présente les experts. Raphaël Legendre.
Il est bientôt 10h, vous êtes toujours sur BFM Business en direct pour les experts, pour une demi-heure de débat et de controverse. On va se diriger du côté de Bruxelles. Maintenant, la Commission européenne a rendu hier son avis sur la trajectoire budgétaire française. Elle estime que l'Hexagone, grosso modo, a respecté ses engagements en matière budgétaire et que la mise en œuvre des réformes et des investissements promis à Bruxelles en 2024 est, je cite, « globalement en bonne voie ». La procédure pour déficit excessif engagé en 2024 reste donc suspendue pour l'instant. Rien Nézard, vous êtes un grand spécialiste des finances publiques. Est-ce que, je veux dire, la première question, quand on voit ça, je rappelle qu'on est quand même dans le trio de queue des déficits les plus élevés, hein, ou trio de tête des déficits les plus élevés.
La dette.
Pour le déficit et pour la dette. Ma question est simple ce matin. La Commission est-elle lucide ou trop conciliante?
Non, la Commission a raison de dire que la France a commencé à faire des efforts. Si on regarde sur la période 2024 et 2025, l'objectif qui avait été donné de faire augmenter les dépenses publiques en France de 4,6% a été en fait non seulement respecté, mais l'évolution a même été de 4,3%, donc c'est plus faible.
On a fait mieux que nos engagements.
On a fait mieux que la cible qu'on s'était...
Il faut rappeler que c'est le nouveau corpus.
C'est la nouvelle maintenant, métrique. Hein, c'est on parle souvent du déficit à 3%. La réalité aujourd'hui, c'est que le pilotage des politiques budgétaires en Europe, dans la zone euro, se fait maintenant plutôt sur les dépenses que sur le déficit strictement. Donc, elle a plutôt raison de dire ça. Néanmoins, deuxième point vient tout de suite nuancer le premier, c'est que le plus dur de l'effort est à venir. Parce que ce que dit aussi la Commission, c'est que quand on regarde nos dépenses publiques, 60% sont liées au modèle social, que quand on regarde certains secteurs, on a parlé des retraites tout à l'heure, le secteur de la santé, le secteur de la masse salariale publique, les collectivités locales, etc., il y a des gains qui sont possibles de réorganisation, de productivité. Et donc la Commission, mais comme tous les organismes internationaux, hein, l'OCDE fait pareil, le FMI fait pareil, des économistes indépendants font pareil, cible, souligne, pointe les gains qu'on peut réaliser à l'avenir. Moi, ce que je trouve aussi intéressant pour finir, c'est que dans l'analyse de la Commission, finalement, c'est pas qu'un plan comptable ce que fait la Commission, c'est pas uniquement budgétaire, il y a aussi une analyse économique.
Oui.
Et ce que dit la Commission, c'est que un des problèmes aussi de la France aujourd'hui, de notre économie, c'est le manque de productivité. Et c'est lié à un investissement dans la recherche et le développement insuffisant. C'était 2,2% de notre richesse l'an dernier. Faut juste se rendre compte que l'an dernier, en 2025, on a dépensé autant pour rembourser les intérêts de la dette que pour investir dans la recherche et le développement, collectivement en France. Donc c'est très insuffisant sur ce volet innovation. Et deuxièmement, c'est insuffisant aussi sur le volet formation, avec encore, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, un niveau de qualification qui est insuffisant, des filières de formation qui sont pas toujours adaptées à la réalité de l'économie et à ces transformations actuelle. Donc je trouve intéressant que la commission n'ait pas qu'une approche budgétaire et elle recommande aussi finalement des évolutions de notre modèle économique au sens large, et y compris de notre fiscalité, parce qu'elle dit aussi que la France se singularise par, on le sait, hein, une fiscalité trop importante sur le travail et les facteurs de production en général et pas assez sur la consommation. Oui. Donc voilà, je trouve que ce sont plutôt des recommandations pertinentes et intéressantes.
Elle nous dit aussi qu'on a un véritable problème avec les retraites et que si on ne fait rien, le déficit pourrait déraper à 5,7% du déficit l'année prochaine.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, oui, la Commission, elle a quand même une habitude ancienne maintenant d'être très conciliante avec la France, hein, quand même. Il faut dire ça. Alors d'abord, il faut quand même voir que les règles européennes, c'est-à-dire le moins de 3% de déficit public...
Voilà, ont changé récemment, hein, après le
voilà,
Covid.
Et le 60% de dette publique. Bon, il y a 11 pays qui sont en procédure de déficit excessif. Donc en fait, ces règles sont devenues théoriques, mais je veux dire, voilà, à partir du moment où il y a... quasi la moitié des pays qui ne les respectent pas. Bon, voilà. Après, la France, elle a toujours eu ce syndrome un peu du too big to fail. C'est un pays qui est... Enfin, voilà, je veux dire, c'est un moteur de l'Union européenne. C'est le plus important pays après l'Allemagne.
C'est la deuxième économie de la zone euro.
Voilà, donc deuxième économie de la zone euro. Donc bon, on peut
Ça veut dire qu'on est fort avec les faibles avec les forts.
Bah oui, c'est toujours été un peu ça. Hein. C'est une règle dans les faits. Et c'est vrai que, bon, quand on regarde quand même, parce que vous disiez qu'on était dans le classement de tête, oui, avec l'Italie et la Grèce, hein, donc on est dans le classement de tête, mais sauf que l'Italie et la Grèce, elles vont dans le bon sens.
Eh oui.
Et nous, on ne va pas vraiment dans le bon sens. Voilà. Et par rapport à ce que vous disiez, oui, effectivement, là déjà, alors, notre objectif de cette année, c'est quand même de réduire notre déficit de 5,1 à 5.
Oui. Hein,
c'est un tout petit 0,1.
Ça va pas
qui va
loin.
Être très compliqué, hein, manifestement.
En plus.
Très compliqué à faire. Voilà.
Avec une croissance, évidemment.
Avec une croissance à zéro, une inflation qui remonte, etc.
Pas aller très loin cette année.
Ensuite, les deux sujets, c'est-à-dire que pour le moment, comment on a bouclé nos budgets avec un impôt sur les sociétés exceptionnel sur les grandes entreprises qui nous rapporte plus de 7 milliards d'euros.
7 milliards et demi,
ouais. Voilà. Donc, tout ça, c'est des mesures one shot à moins qu'on décide qu'on annule toute la baisse de l'impôt sur les sociétés.
C'est tout choc, déjà, pour la surtaxe directe. C'est peut-être, on ne dit jamais 203.
Voilà.
Donc,
ça, je veux dire, c'est
prochaine.
Quand même pas sur le fond très tenable et très recommandé. Et l'autre point, ce qui, dans les recommandations de la Commission européenne, globalement aux pays européens, c'était en gros, mettez le paquet sur l'innovation, investissez sur l'avenir, etc. Ils sont où les gels de crédit là que l'État est en train de faire?
Alors
les principaux gels de crédit.
J'ai une audition du ministre.
C'est France 2030,
oui.
Investissement d'avenir. Hein, je veux dire, là on leur prend 400 millions si j'ai bien suivi, et c'est enseignement supérieur et recherche. Donc, qui sont de nouveau, là encore, 300 millions. On avait dit qu'on allait enfin augmenter le budget de la recherche. Et en fait, on annule toute l'augmentation et on revient à zéro. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? On se retrouve à dans les périodes de disette budgétaire et de gel de crédit. Les trois principales enveloppes dans lesquelles on a pris, c'est effectivement la recherche, les investissements d'avenir, et le troisième, c'est l'environnement, l'écologie.
Oui.
Voilà, la transition énergétique. Bon, on peut pas dire qu'on va véritablement dans le sens des recommandations de la Commission qui nous dit il faut mettre le paquet sur l'innovation.
Oui, effectivement. Et la Commission qui nous dit qu'on sera à 120% de dette l'année prochaine, les Français, ils en pensent quoi dérive, Gilles Slimane.
Ça explique ce que je disais tout à l'heure sur les deux années d'indice de morale économique catastrophique de nos concitoyens, puisque en réalité tout le monde comprend bien, et la première raison à mon avis qui fait qu'on est magnanime ou sympathique avec la France, c'est qu'il n'y a rien de possible. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, on ne peut rien faire. Et on le sait depuis la dissolution. Il n'y a aucun moyen d'imaginer quelques réformes possibles qui permettraient d'engranger un minimum de réduction de la dette, de mettre de l'argent dans les caisses. Donc on s'en prend à des choses qui sont utiles, qui sont indiquées comme stratégiques pour l'avenir, mais qui ne vont pas générer des manifestations dans la rue. À partir du moment où vous avez une assemblée en trois tiers, entre l'extrême droite, la gauche, le centre et LR, on va dire, qui ne peuvent pas, et c'est sain d'ailleurs, qui ne peuvent pas être d'accord sur les solutions. Et c'est très sain qu'ils ne soient pas d'accord sur les solutions. Et où vous savez qu'il y a l'élection présidentielle qui arrive derrière et qui est la mère de toutes les batailles, on savait depuis deux ans que rien ne se ferait et que rien ne se fera cette année. Le budget, le prochain, oui, va être encore tout pourri, pour dire les choses de manière extrêmement... Si tant est qu'il y en ait un, mais... Non, mais il sera forcément mauvais. On va être en année présidentielle. Et oui, la Commission européenne ne veut pas tirer une balle dans le dos du principal pays locomotive, oui, de l'Europe, en le poussant sans doute en plus, et ne veut pas non plus le pousser en plus dans les bras du Rassemblement national, qui est un petit peu le favori aujourd'hui et qui n'est pas forcément le parti qui fait le plus envie à la Commission européenne pour la France.
C'était une des craintes au niveau de l'Europe, effectivement, avec la poussée des extrêmes absolument partout, en Allemagne, en Europe de l'Est, en Europe du Nord y compris, avec cette idée que des décisions étaient prises très loin du pays, s'imposaient aux États membres, et ça avait nourri cette poussée de l'extrême droite. C'est pour ça que la Commission a décidé de lever le pied un peu. On verra si ça a un effet ou pas. Gaël Sliman parlait d'une prochaine loi de finances qui sera probablement pourrie. Ryan Ezard, vous disiez ou pas, peut-être qu'il n'y en aura pas.
S'il y en a une, disait-il.
Si tant est qu'en effet, elle puisse être adoptée. On sait que les deux dernières années, l'adoption s'est faite au prix à la fois de 49.3, oui, et de compromis qui ont fait sacrifier plutôt l'avenir.
Et d'un retard de l'année, hein, c'est toujours été.
Absolument,
en
et à chaque février. Fois en février. Et juste un point pour compléter. Vous disiez tout à l'heure, à très juste titre, que on fait des économies qui sont un peu des expédients pour passer l'année, mais que les choix faits sur l'innovation, l'écologie sont préjudiciables à terme. Évidemment, c'est tout à fait juste. Mais c'est fait par le gouvernement aujourd'hui, parce que, ça a été dit, il n'y a pas d'autre marge de manœuvre. Ouais. Moi, je rappelle juste deux choses. Ouais. Au moment du budget initial qui avait été présenté à l'automne 2025 par le gouvernement, il y avait deux choix qui étaient proposés, parmi d'autres. Le choix sur la santé de faire porter des économies, notamment sur la consommation de médicaments, ouais, en essayant de se dire, bah, peut-être que on peut être un peu plus sobre, peut-être qu'il y a des gaspillages, et donc on va introduire des franchises, on va inciter à réduire la consommation.
Comment t'as 1,50€, quoi. Hein,
absolument. Ouais, bon.
Je crois qu'on est champion d'Europe de la consommation de médicaments.
Oui, et ce qui était d'ailleurs une recommandation de revue de dépenses qui avait été demandée à des experts, parce que la Commission dit qu'il faut faire des revues de dépenses, il faut que les experts vous disent...
Ça fait partie des préconisations de la Commission européenne.
Absolument. Et derrière, que l'exécutif et le Parlement en tirent les conséquences. Bah, l'exécutif l'a fait, le Parlement a rejeté cet article. Deuxième exemple, sur les retraites, la proposition avait été faite, souvenez tout le débat sur l'année blanche, de dire, bah, écoutez, on demande un effort sur les retraites, simplement pour freiner cette mécanique infernale du déficit qu'ont fait tous les, j'allais dire, les oppositions, en fait. On ne peut même plus parler de majorité d'opposition. Mais qu'ont fait tous les autres partis, ils ont rejeté ces articles. Donc, in fine, moi, je suis d'accord, il n'y a pas de marge de manœuvre aujourd'hui pour un gouvernement, quel qu'il soit. Et donc, en effet, c'est sans doute l'élection qui arrive l'an prochain qui permettra de trancher tous ces choix.
De bloquer ça, oui.
La Commission qui propose aussi une TVA sociale. Baisser la fiscalité du travail et rehausser les taxes sur la consommation.
C'est une des mesures les plus impopulaires qui existent.
Ah.
Voilà.
Et pourtant, parmi les plus pertinents
de
l'économie.
C'est un vieux serpent de mer. Hein. La TVA sociale, déjà Nicolas Sarkozy.
Oui, c'était Borloo. Hein. Ça avait coûté quelques dizaines de sièges à l'UMP.
Vous vous rappelez, aux législatives.
Ouais. Et depuis, plus personne n'ose la toucher. Et ça serait pourtant la plus efficace, vous dites, Ryan Ezard. Pourquoi?
Alors, il y a deux manières de faire. Il y a la manière qui consiste à dire on va baisser les cotisations des employeurs, et à la manière qui consiste à dire on va rapprocher le salaire net du salaire brut.
Oui, c'est le grand sujet quand même qui monte pour la présidentielle.
Et si, moi, je pense que c'est important, si vous voulez inciter à l'activité, si vous voulez inciter à la reprise d'emploi, et que vous voulez faire que le travail soit rémunéré à sa juste hauteur, et je pense que c'est aussi une des préoccupations importantes des Français aujourd'hui, le fait de dire on supprime des impôts ou des charges sur le salaire qui est touché in fine par les actifs, c'est quand même un vrai facteur, et d'ailleurs qui a été évalué au plan macroéconomique, de création d'emplois. C'est potentiellement 300 000 créations d'emplois en un quinquennat. Donc, c'est du pouvoir d'achat pour les gens, c'est de la création d'emplois, donc derrière, c'est des rentrées sociales et fiscales,
oui,
mais c'est un choix de société. Il n'y a pas un autre pays d'Europe avec notre modèle social qui n'est pas aujourd'hui une TVA à 25%. Regardez la Suède, regardez le Danemark. C'est pas vrai qu'on peut avoir une assiette de financement de la protection sociale aussi étroite qui pèse uniquement sur le travail. Plus de 80% pèse sur le travail aujourd'hui pour financer la sécurité sociale. C'est pas vrai qu'on peut faire ça tout en ayant des salaires qui payent dignement. C'est pas vrai. Donc c'est un choix qu'il faut faire.
Et voilà. On en revient à la politique. En réalité, pour pouvoir proposer des arbitrages aux gens, qui sont des arbitrages dont on pense qu'ils seront utiles pour le pays et pour eux, et les convaincre. Parce que vous avez raison, les Français demandent que le travail soit, paye plus. C'est constant. Mais les Français disent, de tous les impôts, celui qu'on déteste le plus, c'est la TVA. Toute hausse de la TVA, ils sont pas...
On a martelé que c'était injuste.
Ils sont pas bêtes. Ils voient bien que c'est l'impôt qui rapporte le plus, qui pèse le plus lourd. Effectivement, ils ont un sentiment d'injustice parce qu'on est habitué à des impôts progressifs. Or, la TVA, tout le monde la paye et sur des produits de grande consommation. Mais sur des produits de grande consommation courants de Madame Michu ou Monsieur Durand, au supermarché,
produits d'un. Vous ne touchez pas au taux à 5,5 sur l'alimentation, sur les loyers, il n'y a pas de TVA. Les deux premières dépenses, c'est le logement et l'alimentation.
Oui, d'accord, mais il n'empêche que sur le reste, ça va les concerner et que ça va leur déplaire. Et là où je veux en venir, c'est que pour expliquer ça, il faut susciter une certaine confiance. Il faut avoir l'adhésion de gens à qui vous avez présenté ça au moment d'une campagne et il faut ensuite le mettre en œuvre. Et même si les gens continuent de ne pas approuver, ils l'acceptent. Mitterrand a aboli la peine de mort en 81. Les deux tiers des Français étaient pour la peine de mort. Mais c'était dans son programme. Il l'avait dit. Il l'a dit, il le fait.
Oui. Et donc,
c'est pour ça qu'il faut attendre 2027,
politique.
Malheureusement.
Quel Mac ?
Oui, en tout cas, c'est vrai que il y a quelques années, Patrick Artus avait fait un calcul où il avait regardé si on augmente un point de taxe, quelles taxes sont les plus nocives. On prend la TVA, on prend l'impôt sur les sociétés, on prend l'impôt sur le revenu, on prend la CSG, on prend les cotisations et on regarde à chaque fois quel est l'effet un peu sur l'emploi, la croissance, etc. Mais c'est pas non plus si étonnant. Il s'est avéré quand même que la taxation la plus nocive pour l'emploi, c'était quand même les cotisations sociales. Et en fait, tous les systèmes, même très redistributifs, comme en Europe du Nord, le Danemark, ont fait ce transfert il y a déjà 20 ans. De se dire, on veut garder un système très redistributif, mais par contre, ça ne peut pas s'appuyer uniquement sur le salaire, enfin sur le coût du travail. Donc, on va faire ce transfert des cotisations vers d'autres assiettes fiscales, et notamment vers la TVA. Mais c'est vrai que, pour en revenir à ce que disait Gaël, comme thème de campagne, c'est compliqué à expliquer. Ça reste assez... Oui. C'est un
avec
peu technique.
Avec la retraite à 67 ans, on met les deux.
Voilà, ça fait un bon programme.
Retraite à 67 ans et hausse de 5 points de la TVA.
Ça soit très désirable.
C'est un peu technique. La TVA, tout le monde comprend bien ce que c'est. Les cotisations sociales, pas forcément. Elles sont sur le bulletin de paie. On les voit pas. C'est pas facile à mener comme combat, mais c'est vrai qu'il faut...
C'est un combat important.
Ça peut faire gagner 10% de pouvoir d'achat pour le salarié médian en France. C'est quand même massif, y compris après avoir payé la TVA.
10%.
Ah oui.
Parce que le point de TVA est à 12 milliards quand même, 12-13 milliards quoi, à peu près.
Pas y compris après avoir...
Si vous transférez, c'est exactement ce que vous décriviez, Galmac, si vous transférez aujourd'hui, mettons 60 milliards d'euros depuis la feuille de paye des salariés vers la TVA, les gens qui bossent, c'est une médiane, peuvent y gagner 200 euros par mois. C'est massif comme effet macroéconomique. Et derrière, c'est de
les
la consommation.
Les travailleurs, ça veut dire que ça va se répartir.
C'est une incitation à aller travailler. C'est de la richesse qu'on crée dans le pays.
Partie du Big Bang fiscal que propose Pierre Cazeneuve, un député EPR Renaissance. Mais alors, c'est hausse de la TVA, hausse de la CSG et rétablissement de la taxe d'habitation pour financer tout ça. 200 euros pour 15 millions d'actifs, mais beaucoup de hausse d'impôts.
Et qui, par contre, n'en bénéficie pas, ce qui est normal, vu que c'est le projet, les retraités. Et pour qui votent les retraités? Pour les partis qui peuvent proposer cette mesure.
Non, et surtout, qui vote? Les retraités.
À la présidentielle, ils votent plus, mais tout le monde vote à la présidentielle.
C'est pour ça qu'il faut aussi avoir, c'est un peu politique ce que je veux dire, mais un projet de société.
Oui.
Et c'est pas simplement que chacun regarde sur sa propre feuille. C'est de se dire, est-ce qu'une société dans laquelle on fait peser l'essentiel des charges sur les gens qui bossent, est-ce que c'est tenable? En tout cas, il faut choisir. Soit on veut un modèle social, évidemment, j'y suis favorable. Soit on veut un modèle social, il faut le financer. Et ça peut pas toujours reposer sur les mêmes. soit on se dit, un peu à l'anglo-saxonne, finalement, on jette les gens vers les assurances privées, pourquoi pas, hein, mais auquel cas, c'est, il faut l'assumer. Et aujourd'hui, ce n'est pas tellement le choix que font les politiques français.
Juste un dernier mot sur le coût de la crise. Hier, le ministre des Comptes publics, David Amiel, était auditionné par le Parlement. Il a détaillé les 6 milliards d'économies que la puissance publique devra faire pour compenser le coût de la crise. Les parlementaires n'ont pas été convaincus, visiblement, puisque pour eux, le compte n'y est pas. C'est flou, on n'a pas l'ensemble des économies, mais surtout, enfin, l'OCDE vient de réviser la croissance mondiale pour tout le monde. On se dirige tout droit, possiblement, vers une récession avec le conflit au Moyen-Orient qui dure. Cette crise, elle va coûter beaucoup plus que 6 milliards, Ryan Nézard.
Oui, ça, on le sait déjà. Ne serait-ce que par l'effet, de la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a une prévision de croissance de 0,9% pour 2026.
Il va falloir qu'on la divise par deux, grosso modo.
Potentiellement. Et si c'était demain 0,5 au lieu de 0,9, ça veut dire, en fait, pour les caisses de l'État, de l'ordre, je fais le calcul de tête, de l'ordre de 6 milliards d'euros en plus de déficit. Donc vous voyez qu'on double, on double tout de suite l'addition. Donc c'est normal que le gouvernement et le Parlement soient un peu soumis aux aléas de cette conjoncture économique et réagissent un peu au coup par coup. Après, je pense qu'il faut aussi se dire, à un moment donné, il ne faut pas courir après la crise. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus faire des coupes aveugles à ce point qu'on s'inflige nous-mêmes une récession. On est quand même pas loin, hein, parce que le premier trimestre était
à zéro.
Moins zéro, hein. Ça a été révisé à la baisse, c'est moins zéro.
Il faut pas qu'on s'inflige une récession simplement pour essayer de maintenir absolument un objectif de déficit alors qu'il y a plus de croissance. Faut avoir un peu de discernement.
Allez, il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble. Il est 10h19, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts. Le dernier débat va concerner notre souveraineté numérique. Stéphane Séjourné, commissaire européen à l'industrie, avait porté un texte pour notre défense industrielle, notamment face aux surcapacités chinoises. C'était le thème d'un séminaire à la Commission européenne vendredi dernier. Hier, la Commission a présenté un grand plan de souveraineté pour lutter contre nos dépendances technologiques. Plus de 80% des produits, services et infrastructures numériques sont extra-européennes. Nos dépendances, nos produits viennent d'en dehors de nos frontières. Et afin de réduire cette dépendance, eh bien, Bruxelles vient de dévoiler un paquet inédit sur cette souveraineté. Que contient-il ? Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux, surtout, Gaëlle Mac ?
Alors, que contient-il ? Il est quand même un peu offensif, quand même, on va dire. Disons que
l'accueil est assez mitigé, hein,
voilà.
Je trouve,
alors,
ce matin.
Bon, c'est toujours l'Europe, elle est quand même confrontée à un problème de fond qui est que, en fait, les deux zones qui lui font concurrence, les États-Unis et la Chine, sont tous les deux très agressifs et, en fait, n'accepte de l'Europe que ce soit un marché de consommateurs passifs et finalement qui viennent acheter ces produits et donc ils sont quand même assez prompts à, ils sont très attentifs et ils sont prompts aux rétorsions et aux représailles très vite. Donc on doit toujours un peu s'excuser, si j'ai bien compris, de quand on veut faire un programme de souveraineté. Alors dans ce cadre, il y a deux sujets majeurs. Il y a un premier sujet sur les semi-conducteurs, donc qui passe par des aides publiques d'un côté, donc ça c'est la carotte, et par un peu le bâton en disant que bon, pour les entreprises qui jouent pas le jeu d'acheter, enfin d'essayer d'acheter au maximum européen, on va parfois leur imposer. Alors là, il y avait quand même eu un précédent, hein, c'est-à-dire que la Chine a tout à coup interdit à l'export des puces pour les automobiles, qui s'appellent des puces Nexperia.
Ouais.
Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les constructeurs automobiles européens ont supplié la Commission d'autoriser à acheter des puces d'un autre constructeur chinois de puces, voilà, qui n'était pas du tout plus, qui ne convenait pas du tout plus que Nexperia. Donc voilà. Donc là, la Commission européenne dit bon, il va falloir elle tape un peu du poing sur la table. Est-ce que ça va marcher ? Je rappelle qu'on avait déjà fait un Chips Act, hein, c'était Thierry Breton, qu'à cette époque, on espérait avoir 20% de part de marché dans les semi-conducteurs d'ici 2030 et que ça est très mitigé, le bilan aujourd'hui, puisqu'on est à 10,5, donc je ne pense pas qu'on va être à 20% d'ici 2030. C'est un discours un peu offensif, mais je suis pas sûre que ça soit suivi des faits. Ouais. Et le deuxième sujet, c'était sur le cloud et l'IA. Donc là, il y a des exclusions de marché public pour certaines entreprises étrangères, et il y a l'instauration pour la défense, dans le domaine de la défense, qui est vraiment quand même super critique, d'obligation de recourir au cloud européen. Je rappelle que les États-Unis disposent d'un texte depuis Trump 1, qui Cloud Act, qui dit que, un peu comme à la chinoise d'ailleurs,
il peut nous siphonner toutes nos données.
Que Amazon, bon vouloir, Meta, hein. Voilà.
Contrairement à ce que disent Google, les grandes plateformes, qui nous promettent un cloud très sécurisé.
Qu'ils doivent donner leurs données aux autorités si elles le réclament, y compris celles qui ne sont pas hébergées aux États-Unis. Donc voilà. Mais je rappelle que c'est quand même c'est aux États membres de mettre en œuvre ces recommandations. Donc là encore, on peut s'attendre à des fortes disparités.
Peut-être deux chiffres. On réalise des baromètres sur l'innovation, notamment avec BFM, chez Frédéric Simotel, on les présente souvent, avec Saegus. Et dans ces baromètres, que nous disent les gens que nous interrogeons, donc les Français d'une part, dont les salariés qui l'utilisent dans le cadre de leur travail, et ceux qu'on appelle les pros de la tech, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans l'univers tech, qui sont très pointus sur ces sujets-là. Sur cette question de la souveraineté, ils nous disent que c'est extrêmement important. Et année après année, quand on leur demande les IA qu'ils utilisent, si elles sont françaises et ou chinoises, américaines, eh bien, on se rend compte que la part de ceux qui utilisent de l'IA française décroît et est archi minoritaire.
Ah oui, décroît, parce qu'on a l'impression qu'il y a un élan en ce moment. Il y a beaucoup autour de Mistral.
Il y a eu une poussée Mistral l'année dernière.
Patriotisme économique.
Oui, mais il y a une volonté. Dire. C'est-à-dire que les gens nous disent « j'aimerais bien », on va le résumer comme ça, « j'aimerais bien, je voudrais, j'ai testé ». Mais à l'usage, on est sur ChatGPT, Claude et consorts. Premier élément. Deuxième élément, sur le rapport à l'Europe et à la souveraineté, il y a une attente qui peut... Alors, ça ne suffira pas à réconcilier les Français avec l'Europe, mais peut-être à donner le sentiment qu'on n'est pas toujours les idiots du village international, parce que c'est un petit peu comme ça que les Français voient l'Union européenne, et pas que les Français d'ailleurs, quand on fait des sondages au niveau européen, c'est ce que nous disent les gens. Et sur la souveraineté, ils nous disent deux choses. La France élue et l'Europe n'agissent pas suffisamment pour garantir leur souveraineté en matière d'IA, à plus de 70% chez les Français, 75% chez les pros de la tech. Et si la France et l'Europe n'investissent pas et n'encouragent pas suffisamment le développement de l'IA pour une majorité de Français et pour plus des deux tiers des pros de la tech. Oui. Donc on est bien sur ces sujets qui touchent aujourd'hui nos concitoyens.
Il y a un changement quand même qu'on peut saluer et qu'on peut noter, c'est que la souveraineté était vue par la réglementation jusqu'ici à Bruxelles. Là, on passe un cap vers l'idée d'une industrialisation quand même. Il y a tout un pilier sur le cloud notamment et l'AI Development Act qui vise à tripler la capacité des centres de données durables en Europe d'ici 2030, là, dans ce paquet de la Commission IANESA.
Non, pour moi, ce ne sont que de bonnes nouvelles, ce qui a été annoncé par la Commission hier. C'est plus d'investissements dans les infrastructures, ce que vous venez de dire, les fameux 200 milliards d'euros pour tripler la capacité des data centers en Europe d'ici 2030. C'est plus de préférences européennes, ça a été évoqué sur les données, ce qui permettra de nous protéger. Alors, il y a le domaine de la défense où c'est le plus critique avec dans l'échelle de souveraineté, le niveau de protection le plus élevé, mais ça va aussi jusqu'au niveau le plus faible, le fait d'avoir un stockage des données à minima en Europe. Ensuite, c'est plus de protectionnisme sur les marchés publics, ce qui l'a aussi été... Alors, c'est pas écrit protectionnisme dans les documents de la Commission européenne, mais c'est ça que ça veut dire en vrai. C'est de dire, par exemple, la Commission va passer des marchés sur le cloud.
Enfin, j'ai envie de dire.
Absolument. Oui. Et va le faire avec des clauses qui vont favoriser les entreprises européennes.
264 milliards de dépenses informatiques annuelles pour soutenir nos propres acteurs.
J'en termine par là, c'est de pouvoir créer enfin des champions européens du numérique. Et bon sang de bonsoir, on a tous les atouts. On a... SAP sur les logiciels de gestion d'entreprise, on a OVH sur le cloud computing,
oui.
On a Mistral, ça a été dit, sur les modèles d'IA, ASML sur les semi-conducteurs, Pasquale sur le calcul quantique, je vais arrêter là, la liste. Mais on a tous les atouts, on a les chercheurs, on a maintenant l'énergie, et particulièrement en France, l'énergie décarbonée abondante et peu chère grâce au nucléaire. Maintenant, ce qui manque, c'est l'investissement. C'est le capital.
Et donc, le marché de capitaux. Bah oui,
voilà, évidemment. Ce qu'il va falloir ajouter à cette stratégie
pour
qu'elle réussisse, c'est l'union des capitaux.
Un levier de décision. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Ryan Nézard, Gaël Sliman et Gaël Mac, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Aujourd'hui, c'est jeudi, ne ratez pas le nouveau podcast géopolitique d'Anna Lisa Capellini et Mathieu Jolivet, L'Ordre du Monde, disponible à partir de 12h30 sur le site de BFM Business. Quant à nous, on se retrouve demain, même en même endroit, 9h30, en direct. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.